Et demain, une création radiophonique de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Bonjour tout le monde et merci d'être venu à cette journée d'échange de savoir et d'expérience. Nous l'avons ironiquement intitulée « Et demain, qu'est-ce qu'on mange ?». Je dis ironiquement car nous connaissons tous et toutes l'ingrédient principal de nos repas à venir.
La courge.
Et oui, la courge. D'ailleurs, pour la petite anecdote, nous avons longtemps hésité à appeler cette journée « Ausscourge », mais cela soulignait un peu trop l'aspect dramatique de la situation.
Autour de chez moi, les vaches sont encore là, dans les champs. Mais pour combien de temps ? Après les poulets et les cochons, il paraît que c'est à leur tour de suivre la voie de l'agriculture industrielle. Ici comme ailleurs, les fermes grossissent et se concentrent. Mais demain, que restera-t-il ? C'est l'histoire d'un lent plongeon rythmé par les crises et la marche en avant du progrès. Elles sont moins de 2000 aujourd'hui. Et si je continue la courbe, en 2050, il pourrait bien n'en rester qu'une.
Cet extrait du film « Le dernier laitier » réalisé en 2020 par Mathurin Péchet nous montre que certaines personnes avaient bien vu les choses se profiler. Mais Mathurin était trop optimiste. Aujourd'hui, 2050, pile poil, il ne reste pas une, mais zéro exploitation, pour utiliser le vocabulaire de l'époque, qui était un aveu au passage. Rappelons-nous, déjà en 2030, l'élevage était devenu une impasse, entre autres à cause des épidémies de grippe et autres maladies de plus en plus coriaces. On avait déjà depuis longtemps abandonné les cultures de fruits, de betteraves et de soja, en raison des diverses mouches, la mineuse de la betterave, la mouche Suzuki, la mouche de Hesse, la mouche du chou, la liste est longue. Puis, petit à petit, virus et parasites ont également eu raison de nos cultures de blé, de riz et de pommes de terre. Donc plus de viande, plus de fruits, plus de céréales, qu'est-ce qu'il nous reste ?
La courge !
Et oui, la courge, qui résiste et semble insensible à toutes ces maladies. Au menu, pédogenèse, c'est l'étude des sols, courgeologie et expérimentation paysanne. Nous conclurons avec un atelier cuisine pour varier les plaisirs que peuvent encore nous procurer ces fabuleuses courges qui nous sauvent la vie, il faut bien le reconnaître. Au-delà des témoignages prévus, toute personne souhaitant s'exprimer est chaleureusement invitée à le faire en agitant la cloche à parole. Nous commençons cette journée avec, en guise d'apéritif, un petit coup dans le rétroviseur, un worst-off, revenant sur les origines de la situation.
Les news. Les sols sont aujourd'hui plus pollués que jamais dans les pays industrialisés. Les causes sont l'accumulation de polluants comme les engrais ou les produits chimiques qui stagnent dans les sols.
Difficulté dans la transmission des exploitations est d'autant plus inquiétante que notre agriculture décline.
Ceci entraîne une perte de fertilité des sols, voire une intoxication totale de ceux-ci.
Le problème, le nombre d'exploitations à reprendre qui est en constant recul. En 30 ans, il a été divisé par deux.
Chaque matin, c'est la même angoisse pour Philippe.
Il a nous livré hier et il est déjà là aujourd'hui avec sa facture. Combien ? 2000 litres, 1018 euros. Mais quand même, hein, c'est 1018 euros pour faire tourner les tracteurs. Alors ici, voilà, ça c'est tout ce qui est fourniture phyto. Environ à 15 000 euros de rien que de phyto. Et dans 3 semaines, on refait plein. On va s'adapter.
Nous sommes allés faire un tour sous les hangars de cette ferme XXL.
On est équipé avec des tracteurs et des moissonneuses à chenilles. D'abord avec les premières générations de Challenger, puis les nouvelles générations. Et désormais, on est passé avec des tracteurs à 4 chenilles articulées de type Quatrac.
L'exploitation dispose de 3 pulvérisateurs navigateurs 6000 de chez Hardy. Cela leur sert à intervenir sur de courtes fenêtres météorologiques et sur un grand nombre d'hectares, dont 13 800 hectares de blé, 8 000 hectares d'orge, 1 900 hectares de colza, 11 000 hectares de maïs, 8 000 hectares de soja et 2 500 hectares de luzerne.
C'est une exploitation qui comptabilise déjà à elle seule 57 000 hectares. Je vais boire un coup d'eau, moi, c'est...
Buvons donc un petit coup d'eau, nous aussi, hein. Rassurez-vous, l'idée de cette rencontre n'est pas de revenir sur cette triste histoire, dureté de la vie des agriculteurs, accaparement des terres, gigafermes, surintensification des monocultures monovariétales, épuisement des sols, et j'en passe. L'idée est plutôt de parler de l'avenir, d'échanger, de réfléchir ensemble à des solutions. Nous entamons les échanges de savoirs et d'expériences en nous penchant de plus près sur nos sols. L'appauvrissement des sols est à l'origine du déclin de nos cultures, favorisant le développement des maladies et des parasites. Jean-Paul nous partage ses connaissances en la matière. Il devait nous rejoindre, mais il est bloqué par une grève des méga-agriculteurs transporteurs en colère. Jean-Paul, nous vous écoutons.
Oui, bonjour, je suis Jean-Paul Gabart. Je travaille au niveau de la santé des sols. Je suis basé dans le Gers, à côté de Marciac. Le sol est né grâce aux plantes, climat, etc., mais grâce aux plantes. Aujourd'hui, dans les cas extrêmes de monoculture, les sols se sont dégradés plus vite par manque d'espèces, de diversité végétale. Le manque de diversité dans l'assiette est dangereux pour l'homme. Ce que j'ai découvert en apprenant sur les sols, grâce à d'autres personnes, c'est que pour le sol, si sa diversité alimentaire n'est pas là, il meurt. Alimentaire pour lui, puisque le sol est un milieu vivant. Ce n'est pas seulement un support, comme on l'a entendu pendant longtemps et comme tout le monde a cru que c'était seulement il supporte, etc. Donc, ce qui a beaucoup évolué, par la contrainte des politiques européennes aussi, qui ont voulu lutter contre l'érosion des sols, c'est de mettre en place des cultures intermédiaires pour empêcher l'érosion des sols. Et puis il y a des gens, il y avait des techniciens, il y a toujours des gens qui en parlent et qui disent « mais c'est utile pour votre sol ». Alors en quoi c'est utile? Donc il y a l'érosion d'une part, mais après il y a la nourriture du sol, puisque pour nous nourrir, le sol doit d'abord se nourrir. Et en fait, il nourrit qui? Dans ce gros magma qui est immense et puis qui est en même temps à petite échelle sur un millimètre cube, vous avez des centaines de milliards de bactéries et de microbes. Et bien, quand on redonne de la diversité au sol ou qu'on regarde un sol qui est en bon état, qui a eu de la prairie, qui a eu de la rotation, on s'aperçoit que c'est un milieu vraiment vivant. Il a besoin de quoi? Il a besoin de diverses plantes parce que les diverses plantes attirent autour d'elles des petits animaux que sont les microbes, les bactéries et les levures, qui vont venir manger plutôt chez Pierre ou chez Paul, parce que chez Pierre, elle trouve que c'est mieux que chez Paul. Et ces levures, ces bactéries, contribuent à construire un milieu plus ou moins équilibré ou plus ou moins déséquilibré. Alors le déséquilibre, on n'a pas, je ne dis pas bien ou mal, le déséquilibre, c'est qu'à un moment donné, le sol, il ne fonctionne plus comme un sol devrait fonctionner, c'est-à-dire réservoir, j'accumule des réserves, et les plantes qui sont là vont venir le prendre pour faire du grain ou de la matière verte. Et plus il y aura cette diversité de plantes, et plus ce système va fonctionner. Et dans tous les cas de sol, on améliore de beaucoup cette fraction colloïdale qui, elle, retient les agrégats et limite très fortement l'érosion. Donc dans l'assiette, automatiquement, dès qu'on est un peu plus diversifié sur les plantes, alors sur les semis à des saisons différentes, parce que dès qu'on fait une autre culture, on change le système. La lutte contre les adventices est plus facile, par exemple. Et dans notre assiette, automatiquement, on améliore la qualité, pas forcément génétique, mais la qualité intrinsèque alimentaire de la plante, parce qu'elle va avoir été récupérée dans le sol des éléments que, quand elle est en monoculture, elle ne récupère plus. Ce que les gens s'aperçoivent, en mangeant un produit biologique, j'ai l'impression que j'en ai moins besoin, de quantité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est fondé totalement. Ça varie selon les gens. Ça veut dire que quelque part, le produit qu'on a assimilé, il a plus, c'est même pas la texture forcément, mais il a plus de contenu en minéraux, puisqu'il contient beaucoup de minéraux. L'argument, mais vous allez moins en manger, vous allez moins vous goinfrer d'un truc qui n'est pas équilibré, ça, c'est vraiment quelque chose qui est une réalité. Quand on parle d'essayer de donner un peu plus vie au sol, parce qu'il y a des sols morts, mais il n'y en a pas tant que ça finalement, il y a des sols en très mauvais état, mais même des sols en très mauvais état, ça se récupère. Et dès qu'on aborde la question sous ces deux volets-là,
La plupart des paysans qui sont dans l'alimentaire direct, hein, ils comprennent vraiment et ça, ça leur fait plaisir de le faire. C'est quelque chose qui porte beaucoup aujourd'hui notre discours à nous d'accompagnateurs de projets, je dis, parce que c'est souvent des petits projets où, oui, on ne va pas forcément gagner plus. C'est difficile. Il faut plus de personnel. En fait, avec le tracteur, on passe trois fois plus. Il faut désherber mécaniquement, c'est le beans. Mais le côté qualité alimentaire ou valeur alimentaire et santé, il pèse énormément. Et je trouve que c'est assez justifié, au-delà de l'aspect environnemental, de plein de choses aussi.
Le sol vient de la plante et la plante du sol. Belle mise en relation de la nourriture des sols avec l'alimentation des humains. Merci Jean-Paul. Du sol à l'assiette, nous passons de l'assiette au sol, avec Pascal qui nous parle de son métier.
Bonjour, alors moi je m'appelle Pascal Brûlé, je suis maître composteur dans une SCOP, les mains sur terre, à Albi. En tant que maître composteur, nous on définit la matière organique, c'est toute cellule qui a un jour a été élaborée par un processus vivant, c'est-à-dire venue d'une graine végétale ou animale finalement. C'est tout le processus biologique qui élabore la matière vivante. Et en termes de fertilité des sols et des champs, en fait on parle de matière organique, c'est quand on apporte cette matière organique qui a arrêté de vivre, on la redépose sur le sol ou dans un composteur ou parfois malheureusement dans une poubelle et dans un incinérateur. C'est, donc là on parle de matière organique qui va se dégrader, elle a été vivante, elle va se dégrader pour refertiliser les sols. Il y a une très grande partie de la matière organique résiduelle de nos activités humaines qui aujourd'hui ne retourne plus au sol mais s'en va à l'enfouissement ou à l'incinération. Et donc est détournée des sols nourriciers, des sols sur lesquels, donc des champs ou des jardins sur lesquels on plante et on plante des choses pour manger demain. Et ben du coup, ces sols-là ne bénéficient plus de l'apport en matière organique qu'ils devraient avoir pour pouvoir. En gros, c'est, les plantes se nourrissent d'atomes et de molécules de base qui sont celles des matières organiques, très peu des minéraux. Le sol. C'est pas fait que de sable ou d'argile, c'est fait de beaucoup de matières organiques plus ou moins dégradées. Et s'il n'y a pas ça dedans, et ben, c'est un sol stérile, c'est un désert en fait. Donc l'aberration actuelle du cycle de la matière, c'est qu'on a coupé le cycle logique de la matière. La matière ne revient plus là où elle devrait aller. La solution, c'est de reprendre l'habitude de ramener la matière au sol. Cette habitude, on l'a perdue il n'y a pas très très longtemps, en fait. Ce qui vient de nos cuisines, on l'a perdue il y a moins de 50 ans, quand tout d'un coup, il a été facile de faire tourner des camions poubelles et d'envoyer de plus en plus de poubelles vers on ne sait où. Ça disparaît, c'était magique. Ben non, ça s'en va à l'enfouissement, en fait. Et un peu plus avant ça, il y a 200 ans, on a perdu l'habitude aussi d'amener nos matières organiques caca, pipi, en gros, au sol jusque dans les années 1850, jusqu'à l'invention du tout à l'égout. Alors, c'est très confortable comme invention pour la ville, mais en fait, ça coupe une partie du cycle de la matière organique qui était de ramener toutes ces matières-là au champ, ce que Victor Hugo explique très bien dans le livre 3 des Misérables. Je vous invite à suivre avec lui son voyage dans les intestins de Léviathan. Il raconte tout ça parfaitement. Il n'est pas très très loin de nous, le cycle vertueux de la matière organique. Juste par confort et à grand coup d'énergie, on l'a cassé. Et il est urgent effectivement de le retrouver.
Je vois qu'une personne dans la salle souhaite s'exprimer.
Je souhaite poser une question à Pascal. Nous n'avons pas vraiment la main sur le cycle de nos déchets. Il nous échappe complètement. Pourquoi c'est si important de recréer ce cycle vertueux ? C'est quand même compliqué. Et qu'est-ce que ça permettrait réellement ?
Qu'est-ce que ça permettrait ? Ça permettrait d'amender les champs avec des matières qui ne viendraient pas de la pétrochimie. Là, à nouveau, on utilise beaucoup d'énergie pour élaborer chimiquement des molécules qui existent tout simplement. Par exemple, je reviens à l'urine. L'urine, elle est composée à peu près des mêmes choses et même avec un petit peu plus de minéraux que les engrais azotés préparés chimiquement qui sont achetés et pendus massivement aujourd'hui dans les champs. Donc ça permettrait des économies d'énergie et de refonctionner en circuit court, d'arrêter d'appauvrir nos sols, que ce soit en matière organique ou en vie.
Que peut-on faire pour changer les choses ? Je veux dire à notre niveau, hein.
Le citoyen, il peut être, il peut se responsabiliser, prendre conscience de la préciosité de toutes ces matières et s'engager lui aussi dans les détourner au pied de chez soi, participer à du compostage de proximité, du compostage collectif, partagé. Le travail est surtout dans les têtes. Quand on parle de matière organique et de compost, on pense peau de banane et peau de carotte. Dans la matière organique, il y a le pipi et le caca, entre autres. Il y a tous les lisiers, bah, des matières qui semblent peu nobles, qui semblent sales. Et là, il y a des tabous à casser, en fait. Et puis, quand on parle de dégradation de la matière organique, donc de compostage, en fait, on parle de « Ah, ça pue, c'est de la pourriture bah, ». Non, d'abord, normalement, ça pue pas. Et puis, oui, on parle de la mort, en fait. On parle de dégradation de la matière. Un cycle, c'est un cycle complet. Donc, bah, la plante, elle pousse, on la mange. Et puis après, elle se dégrade, elle meurt. Et puis, nous aussi, un jour, on meurt. Et donc, en fait, on parle de tabous. Il y a des tabous psychologiques à faire sauter qui nous permettront de remettre le cycle en route, effectivement.
Merci, Pascal, pour toutes ces informations et ces conseils. C'est vrai que la courge a besoin d'un sol plutôt riche. Mais effectivement, nous pouvons lui permettre de se reconstruire. Nous allons migrer du sol vers la plante. À partir des années 2020 environ, de nombreuses variétés de courges sont cultivées et commencent à remplir nos assiettes. Aujourd'hui, 30 ans après, elles sont devenues de fait la base de l'alimentation humaine. Nous les remercions, prenons soin d'elles. Paul Nicolas, courgeologue, nous parle des variétés qu'il affectionne particulièrement.
Oui, eh bien, Paul Nicolas... J'habite à Montaux, c'est un petit village dans l'Hérault, entre Saumière et Montpellier. Oui, ben voilà, je suis agriculteur, enfin petit paysan, et je produis entre autres des cucurbitacées, une collection de, je sais pas, peut-être 70-80 variétés. Ça m'a passionné depuis plusieurs années. Toutes ces courges, c'est vrai que c'est tellement, il y a une diversité qui est phénoménale. J'avais vu des expos dans le temps et tout ça, c'est ça qui m'avait aussi beaucoup passionné. Après c'est tellement beau, toutes les formes, toutes les couleurs et tous les aspects culinaires en plus qu'on peut en tirer parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très bonnes, avec des goûts différents, tout ça. Donc voilà, c'est la passion de ça. Mais seulement, les cucurbitacées, ça se croise énormément. Enfin, par exemple, je pense à une variété locale, la seule variété locale, c'est qu'il y a peut-être même de la région. C'est ce qu'on appelle, enfin, en plus on ne sait pas vraiment le nom, ça peut être le gris de Montpellier, d'après ce qu'on m'a dit, ou un truc comme ça. Enfin, c'est une courge grise locale qui se trouve que dans la région de Montpellier, ou un peu les Cévennes, là et tout ça. Quoi. Et c'est la seule variété apparemment vraiment qui a une origine vraiment locale, vraiment du coin. Quoi. C'est une belle courge grise qui peut devenir jusqu'à comme ça, légèrement côtelée. Et c'est une courge qui est d'excellente qualité, enfin, hyper dense, avec une chair jaune là, sèche, mais enfin, hyper dense, hyper sucrée. Quoi. C'est une courge excellente. Quoi. Et ça, effectivement, ça vaudrait le. Il n'y a que certaines personnes apparemment qui en ont encore, qui détiennent encore des graines. Alors j'ai eu l'occasion de récupérer l'année dernière par quelqu'un, enfin qui m'en a vendu. Et j'espère que les graines seront bien pures, qu'elles seront bonnes, que ça sera une bonne lignée et tout ça. Et ça après, parce que j'avais eu l'occasion d'en avoir par des... je l'avais connu par des gens qui m'avaient fait connaître ça, qui m'avaient filé des graines et tout. Et le problème c'est que moi, comme je ne me suis pas occupé de récupérer les graines, enfin, pour vous donner un exemple de problème de la conservation, une fois j'avais récupéré des graines sur une, et puis que je ressemais après, ça me donnait des trucs, c'était des courges un peu, des en forme de ballon de rugby et rose, quoi. Ça n'avait plus rien à voir. Alors voilà ce que ça produit après au niveau des croisements, voilà.
Merci beaucoup de partager avec nous votre passion. C'est vraiment chouette de savoir qu'il existe des courges encore inconnues. Mais du coup, je me demandais, à part la courge de Montpellier que je découvre, est-ce qu'il y a d'autres variétés intéressantes au niveau du goût pour d'autres aspects ?
La buttercup, par exemple, qui est c'est un peu un genre de potimarron vert, mais avec un léger turban. Voilà, c'est une courge qui se rapproche un peu du type potimarron. C'est une courge excellente, donc à peau verte, quoi. Verte, vert gris. C'est vrai que c'est une courge excellente. C'est vraiment une des meilleures courges. Elle est aplatie sur le dessus, sur le dessous aussi. Enfin, à part que il y a plus ou moins ce turban qui. Donc c'est une courge à peau à chair jaune, enfin jaune orange, mais très sèche, farineuse et très sucrée, quoi. Mais très super parfumée, excellente. Voilà, ça fait partie des variétés qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas classiquement, quoi. parce que en dehors de sortie de la muscade de Provence, enfin dans, je parle dans la région quoi, et qui bon voilà, qui est très connue, qui est la courge classique que presque tous les gens connaissent, et en dehors des variétés qui sont devenues à la mode depuis l'engouement qu'il y a eu pour ça il y a 15 ou 20 ans, c'est les potimarrons rouges, voilà, la butternut, les spaghettis pour les connaisseurs et tout, et en dehors de ça, en fait on n'a pas découvert plus grand chose, alors qu'en fait la diversité à côté de ça elle est énorme. Au niveau potimarron, on a toute une gamme de variétés, et notamment dans les potimarrons verts, qui sont tous meilleurs les uns que les autres, et voilà, mais que les gens connaissent quasiment pas quoi, très peu.
Merci Paul-Nicolas pour votre participation. C'est vrai qu'il est d'autant plus vital de préserver nos courges et donc de reproduire avec précaution leurs semences. Y aurait-il d'autres réactions ou questions en relation avec notre alimentation de demain ou sur les curcubitacées? Alors nous allons transitionner avec le deuxième sujet de la journée qui peut être accueilli comme une bonne nouvelle. En effet, certaines terres agricoles semblent encore saines et généreuses. Par exemple dans le Lot, où une expérimentation portée par un collectif de paysans et de paysannes en polyculture et en polyélevage sur des petites surfaces porte ses fruits comme on disait avant.
La ferme de la Rose, on est dans le Lot. On est une ferme collective en polyculture polyélevage. On a deux troupeaux, un troupeau de vaches salaires, allaitantes et laitières. On a un troupeau de porcs de Bayeux. Sur les céréales, donc on fait les céréales panifiables, du blé avec des variétés anciennes qu'on sauvegarde depuis plusieurs années, du petit épeautre, du seigle, on fait aussi du sarrasin, on cultive des céréales pour faire des graines pour le pain, donc on fait du lin, on fait du tournesol pour l'huile. On essaye de faire aussi du colza, c'est pas toujours évident. Ça, c'est pour la partie culture. Ensuite, on a du maraîchage depuis quelques années. Côté de ça, on a un verger, soit des pommes anciennes, soit des variétés qui ont été sauvegardées. Le verger a été planté par le grand-père de mon associé, d'un de mes associés. À l'origine, c'est une ferme familiale qui a été montée par le grand-père de Basile dans les années 60. C'était orienté port industriel. Donc avec des bâtiments, une maternité, des bâtiments d'engraissement. Et donc deux de ses fils, Jacques et Serge, se sont installés avec lui et ont décidé de transformer la ferme. Pascal, donc la femme de Serge, les a rejoints. Et là, ils ont tous les trois monté la ferme telle qu'elle est aujourd'hui, donc avec le pain, les vaches, les porcs. Le maraîchage est arrivé plus tard. Et donc il y a Basile, un des enfants de Serge et Pascal, avec sa compagne, ont décidé de revenir sur la ferme avec l'idée de reprendre l'exploitation, mais pas seul. Donc ils se sont d'abord intégrés, pris en main la ferme un petit peu, et puis dans une réflexion avec des institutions, tous les cinq, ils ont entamer des démarches pour ouvrir la ferme à des gens de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on est un peu tous arrivés au compte-gouttes. D'abord, il y a eu Jérémy et Laurine. Un peu par hasard, ils cherchaient à s'installer en maraîchage. Et là, Jacques, Serge, Pascal, Basile et Béril ont dit c'est sympa, nous on cherche à installer des maraîchers, c'est une possibilité sur la ferme. Voilà, au fur et à mesure des discussions, finalement, ils se sont décidés de s'installer ici. Et encore en parallèle, donc en même temps, moi j'étais dans le Lot et je cherchais à m'installer. Je suis venue donner un coup de main pour monter la première serre. Et là, dans les discussions avec Jacques et Serge, mais on a trait les vaches il y a longtemps, c'est un projet, on voudrait refaire, machin. Et donc, c'est pareil, ça a trottiné dans ma tête et puis je suis venue en reparler avec, comme on sait appeler les jeunes. Et puis on a commencé à tester et du coup c'est comme ça que j'ai intégré le
collectif.
Et donc on n'utilise pas d'intrants chimiques, on n'utilise pas de produits chimiques ni pour les cultures, ni pour l'entretien des prairies, ni pour les soins aux animaux, ni pour tout ce qui est produits transformés. On essaie de travailler le plus possible en accord avec la nature et en accord avec les rythmes surtout de respecter ça. Et de, au niveau des animaux, de respecter au maximum le bien-être en respectant en fait leur comportement animal. C'est-à-dire on n'élève pas les cochons de la même façon qu'on élève des vaches. Les températures de bien-être ne sont pas les mêmes. Donc, pour l'alimentation, on essaie d'être sur le plus simple possible. Donc, pour les bovins, ils sont nourris au foin et à l'herbe exclusivement. Et pour les porcs, on prépare un aliment à partir de nos propres productions. On produit pour répondre à des besoins alimentaires locaux. On a bien une vocation de producteur alimentaire local. Donc, on produit en quantité raisonnable. On produit surtout ce que la terre et la superficie et les moyens qu'on a nous permet de produire. Accéder à la terre, bon, je savais que ça allait être compliqué, mais je ne me voyais pas travailler toute seule. Du coup, pour moi, le collectif, c'était forcément la solution pour partager la charge de travail, partager les responsabilités, se libérer du temps. Donc, en fait, pour moi, le collectif, c'était qu'une solution. C'était vraiment la seule façon de pouvoir travailler sereinement en agricole.
Merci pour ce témoignage, il apporte des perspectives inspirantes. Et peut-être même qu'une partie du Lot pourra bientôt manger autre chose que de la courge, nous le souhaitons. À suivre. Nous avons entendu qu'il était possible d'éviter l'épuisement des sols, des plantes et de l'humain. Nous avons vu comment nourrir la terre qui nourrit les courges qui nous nourrissent. Pour finir, nous vous proposons un atelier de cuisine totale courge.
Moi, je suis jardinière, restauratrice de longue date.
Entrée, plat, dessert, animé par Marie-Vonne.
Donc du coup, je peux vous apporter le résultat de mon expérience maintenant. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va faire ces trois recettes-là. Les galettes de butternut. Donc c'est des galettes formule salée. Hein. Donc on va utiliser la butternut. Elle est belle, hein. Elle tient debout. Donc on va l'utiliser comme ça et on va la mélanger avec des oignons, de l'ail pour avoir un petit peu d'arôme et aussi donner les compléments alimentaires nécessaires, hein, parce qu'il y a les deux options, les deux versions. Ensuite, on a une crème de potimarron au poireau, donc c'est un potage, hein, mais c'est une crème parce qu'on va la rendre onctueuse, ce sera doux au palais et très aromatisé. Donc pour ça, on va utiliser le potimarron, parce qu'à la base, on devait faire un gâteau de citrouille. Alors je vous embrouille un peu, hein, ça fait partie du jeu. On devait faire un gâteau de citrouille et on fera une légère transformation puisque celle-ci est plus petite, elle sera suffisante pour le gâteau. Donc on va l'inverser, on va prendre celui-ci pour faire la crème donc d'Hokkaido au poireau. Donc des poireaux, un petit peu de persil et ensuite donc nous allons faire le gâteau de citrouille avec ceci qui est un potimarron. La différence, bien sûr, c'est que la citrouille, c'est très aqueux, il y a beaucoup de liquide. Hein. Ça se met en purée fluide, beaucoup plus facilement que ceci, qui reste ferme. Donc, pour remplacer, pour combler cette absence aqueuse, on utilisera un lait végétal, ou de l'eau même, hein, ou de l'infusion aussi. Hein. Ça peut être très bien, par exemple, une infusion verveine. Ça apportera une petite note fraîche, voilà. Pour la présentation des recettes. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire des groupes pour faire les recettes ensemble. Donc, il y a trois recettes. Si vous voulez faire trois groupes, peut-être même quatre, puisque celle-ci, celle du dessert, on va la diviser. Voilà, et c'est parti.
Oui, je vais faire parce que je savais qu'il y en avait juste une petite
Merci à vous d'être venus et d'avoir participé à cette journée d'échange intitulée « Et demain, qu'est-ce qu'on mange ?». Le calendrier révolutionnaire nous invite à fêter le potiron Curculita Maxima le 4 octobre et la citrouille Curculita Pepo le 8. Ne l'oublions pas. Ce docu-fiction « Et demain, qu'est-ce qu'on mange ?» a été réalisé par les radios Radio Larzac et Radium dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci à Marie Cheneval et Wilfried Kroos. Et bon appétit !